Je bénis le Seigneur qui nous donne l'opportunité, une nouvelle saison, une saison historique, une saison pas comme les autres, parce qu'il voudrait nous voir jouir de notre liberté en Christ. Alors, ce soir, le thème qui va nous préoccuper en sa première articulation, c'est commencer bien. Commencer bien. On pouvait dire aussi bien commencer. Mais prenons le thème comme il a été proposé. Lorsqu'on dit commencer bien, le verbe commencer en lui-même traduit le départ d'une chose ou la mise en œuvre de quelque chose. Cette mise en œuvre dépend d'un certain nombre de préalables. Il est donc question de comprendre que le tout n'est pas de commencer, parce qu'il y a des commencements qui n'en sont même pas un. C'est pourquoi on accole l'adjectif bien. Bien, maintenant, signifie que la manière où, par laquelle tu commences détermine l'altitude à laquelle tu vas achever ta course. Bien commencer. Il s'agit donc d'un départ. Il s'agit d'un départ ou d'une aventure ou d'un voyage spirituel. Un voyage spirituel, pas avec l'intelligence, pas avec les moyens humains, pas avec les artifices, car c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on entreprend un tel voyage. Parce que Dieu commence toutes choses en nous par son Esprit. Et il commence cela en notre esprit. C'est pourquoi c'est une question de foi et non une question de raison. On peut donc se rendre compte que dans l'église, dans les rassemblements appelés chrétiens où les chrétiens se retrouvent, on ne voit pas des personnes progresser, des personnes émerger au plan spirituel, au plan matériel, dans tous les ordres. On ne les voit pas. Cela suppose qu'il y a un problème. Le problème n'est pas ces personnes-là en tant que telles. Le problème, c'est leur commencement. Elles n'ont pas commencé. Ou elles n'ont pas bien commencé. Ou elles n'ont pas commencé où il fallait commencer. Et là, on peut arriver à des catastrophes dans l'église. On peut arriver dans des bagarres entre les chrétiens. On peut arriver à des accusations, à des plaintes. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais c'est la chair et la nature dont Dieu a en horreur qui est en train de se mouvoir dans des corps que nous sommes. Il est donc question ce soir de commencer bien. Nous allons dire que pour bien commencer, il y a des préalables. Et ces préalables sont d'une importance capitale. Sans ces préalables, tout ce que tu fais à l'église, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce qu'on a comme connaissance de ma personne, c'est zéro.
Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.
Si tu n'as pas rempli ces préalables, tu peux être sûr d'une chose.
tout est possible.
Tu as toujours perdu ton temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au terme de cet enseignement, tu n'auras pas perdu ton temps. Alors, que faire pour bien commencer? Cette question mérite d'être examinée avec beaucoup de sérieux. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Cela voudrait dire que si tu crois ou si tu n'as pas la conviction de cette chose que je vais évoquer, que l'Esprit de Dieu habite en toi et que l'Esprit de Dieu atteste que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas encore bien commencé, ou bien tu n'as même pas commencé. Il faut avoir l'assurance de ton identité. À quelle famille appartiens-tu? Si vous arrivez dans un village, on dit que le chef de village s'appelle Tamo. Et on dit que tous les enfants qui sont dans la chefferie sont les enfants de Tamo. Mais aucun enfant ne porte le nom de Tamo. Ce sont les enfants de Tamo. Est-ce que vous comprenez bien? Bon, je ramène ça à Wété, moi. Vous arrivez dans ma maison. Il y a mes cinq enfants. On dit que ce sont mes cinq enfants, n'est-ce pas? Moi-même, je dis que ce sont mes cinq enfants. Et mes cinq enfants-là, on écrit leur nom. Vous ne voyez pas où est tout ça. Ce sont mes enfants. C'est pour vous dire, si tu ne connais pas dans quelle famille, à quelle famille tu appartiens, alors il y a déjà un problème. C'est que tu n'as pas bien commencé. J'appartiens à la famille de Christ. Et j'appartiens à la famille de Christ parce qu'il m'a engendré. Il m'a engendré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est le point de départ. Si ce point de départ n'est pas correct, alors il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité. Et cette chose, c'est qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il y a des personnes qui ne croient plus en l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui ne savent même pas que Dieu les aime. Moi, je voulais te dire que tu m'aimes. Et que Dieu, il t'aime. Indépendamment de ce que tu es et de ce que tu as fait. Dieu, il est plein d'amour pour toi. À chaque battement du cœur de Dieu, à chaque battement de ton cœur, correspond le rythme d'amour de Dieu. Et peut-être ça va même plus vite que ça. Dieu est plein d'amour pour toi. Parfois, certains peuvent estimer, oh, je suis mauvais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sûrement, Dieu ne m'aime plus. Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime. Alors, la Bible nous dit en Romains chapitre 5, verset 8, que comme Dieu t'aime, il a décidé de faire quelque chose pour toi. Sans demander ton avis, il a décidé de donner Jésus et de mourir pour tes péchés. L'amour de Dieu, lorsque nous parcourons la Bible, toute la Bible nous dit comment Dieu nous aime. Et ce qu'il a fait pour montrer qu'il nous aime. Alors, très rapidement, il faut d'abord croire que Dieu t'aime. Deuxièmement, il faut reconnaître que tes plans plans et tes stratégies sont incapables de t'amener dans le plan merveilleux que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui calculent, ils disent, bon, si je fais comme ça, si je prie le matin, je lis la Bible le soir, c'est sûrement je suis avec Dieu. Non, tu n'es pas de la famille de Dieu. Tu ne peux pas être un ouété si ton nom, il n'y a pas ouété sur ton nom. Tu ne peux pas être de la famille de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si tu n'es pas passé par ces étapes-là. Deuxième étape, j'ai dit bien qu'il faut reconnaître que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan merveilleux pour toi a été entaché par le péché. Romains 3 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, le péché t'avait exclu de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas une présence ponctuelle. C'est une présence glorieuse. Une présence qui te transporte. Et la Bible nous dit que Jésus nous a aimés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en Christ Jésus. Alors, ça c'est ce que Dieu fait. Dieu, il a fait sa part. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'il faut que toi, tu admettes quelque chose. Admettre que tu es pécheur. Et que tes stratégies, tes calculs, tes jongleries ne peuvent t'aider. Les crânes de tes ancêtres, les traditions, les religions, les philosophies ne peuvent t'aider à atteindre le merveilleux plan que Dieu a pour toi. Quatrième et dernière chose, il y a une seule réponse. Jésus est cette réponse de Dieu pour cela. Crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que ton salut ne dépend ni de tes efforts, ni d'une tierce personne, mais uniquement de Jésus. C'est Jésus qui a arrangé. Il y avait un pont. Jésus est ce pont entre toi et le Père. Avant, tu ne pouvais plus avoir accès au Père. Maintenant, Jésus est venu se placer à la croix. Il a porté toutes tes souillures et te donnant l'accès donc au Père. Alors, je vais illustrer cela comme ceci. Mes amis, je tiens là une bouteille. Personne n'en veut.
C'est possible de remettre. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu.
Si vous consommez de cette eau, c'est la mort. C'est-à-dire que vous êtes entraîné à mourir, n'est-ce pas? Alors voici ce qui se passe. Voici cette eau. Et voici une autre eau, n'est-ce pas? Vous savez ce que représente cette saleté. Cette bouteille là, c'est ta vie. Et ce qui est à l'intérieur là, c'est le péché. Et l'eau que je viens d'ajouter là, ce sont les artifices. C'est le crâne de ton grand-père. Ce sont tes efforts humains. Ce sont les philosophies que tu avais utilisées pour enlever toute la saleté qui est là dans ton cœur. Mais tu n'y parviens pas. Tu n'y parviens pas et tu ne peux même pas. Mais il y a quelqu'un et il y a quelque chose qu'il faut faire pour qu'on ait de l'eau potable dans cette bouteille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut verser cette eau. Vider complètement la bouteille. Qu'est-ce qu'il faut encore faire de la bouteille maintenant? Parce qu'il faut utiliser la même bouteille. il faut la rincer, la désinfecter, n'est-ce pas? Ok, voici ce qui va se passer. Jésus, tu étais cette bouteille. Jésus a pris son sang. Il a d'abord vidé tout le contenu là. Le péché, il a écrasé ça. Maintenant, il a pris son sang. Il a nettoyé. Il a enlevé les impuretés. Et quand il a enlevé les impuretés, il s'est chargé de remplir. Et quand il a rempli, tu es devenu cette bouteille. Et si tu deviens cette bouteille, tu es une nouvelle personne. Tu fais partie de la famille de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, c'est le problème. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui sont comme ça. Elles ont fait des efforts. Elles luttent contre certains péchés tout le temps. Elles luttent contre eux. Elles se répandent même tous les jours. Mais elles n'ont jamais fait ce qui est vrai. Elles n'ont jamais pris le véritable départ avec le Seigneur. Je voudrais dire, si tu es une personne comme ça, la main de Dieu t'est tendue. La religion, ça ne sauve pas. Ta présence à ce programme, ça peut être la conclusion de ta présence à ce programme. Il y a beaucoup d'esclaves dans l'église. Et si ta vie est comme cette bouteille, tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu peux sourire, tu peux danser quand les gens dansent. Mais toi-même, tu sais que tu es un esclave. Mais ce soir, Dieu veut faire de toi un homme libre. Libre à l'égard du péché et te donner une nouvelle. Une nouvelle opportunité de marcher avec lui. Marcher avec lui. Je n'ai pas dit à côté de lui. Il y a des gens qui n'ont jamais tenu la main de Jésus. N'ont jamais saisi la main de Jésus. Ils chantent les chants de l'église. Elles prient même souvent. Et quand elles prient, elles disent, j'ai longtemps prié. Jusqu'à imaginez un instant. Je ne connais pas cet ancien. Je ne le connais pas. Je ne l'ai même jamais rencontré. On suppose, hein. Et une fois on se croise en route, je commence à lui dire, comment ça va, amigo? Quand il va me regarder, comment là? Il est normal. C'est ce qui se passe avec Dieu. Tu parles dans la prière. Tu lis la Bible. Tu cites même certains passages du but aussi tu as attrapé. Quand Dieu lui te regarde, il dit, je te la seule manière de te connaître, c'est que tu dois être engendré par l'Esprit. Il n'y a pas le cachet de Dieu. Romains chapitre 8, verset 5. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et pour avoir cet esprit, ce n'est pas un homme qui va te donner cet esprit. C'est Dieu lui-même. La chose de Dieu, c'est Dieu qui donne. Il va mettre cela en toi. Alors, avant de continuer, je vais faire une parenthèse. Pendant qu'on va chanter un cantique, tu vas méditer sur ta réelle identité, ta véritable personne. Est-ce que tu as déjà un jour commencé avec le Seigneur? Est-ce que tu as véritablement commencé? Est-ce que tu n'as pas fait semblant? Et si tu as fait semblant, tu as au moins une opportunité ce soir d'être vrai.
Il est capable de
tout. Et d'accepter ton cœur à Jésus-Christ. Si un jour tu l'as déjà fait, c'est bon, tu n'en as pas besoin. Si tu l'as déjà fait, c'est une bonne chose. On voit dans l'église beaucoup de gens qui ont rétrogradé, on se plaint même. Un jour, on avait un frère à Yaoundé. Chaque jour, il vient confesser les mêmes péchés. Un jour, à une réunion, un autre lui dit que tu sais ton problème, que tu n'es même pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Oh, il y a les gens comme ça dans l'église. La vie spirituelle est chétive. Sa marche est nulle avec le Seigneur. Parce qu'il n'a jamais laissé Jésus diriger sa vie. Il y a des gens qui sont toujours des commandants en chef de leur vie. Tant que Jésus n'a pas les commandes de votre vie, vous ne lui appartenez pas. J'ai entre mes mains les clés ici. Je peux disposer de ces clés comme je veux. Je peux en déposer ici. Je peux vous remettre. La clé ne me dira jamais pourquoi tu me manipules autant. Remettre sa vie entre les mains du Seigneur, c'est lui donner les clés de tous les aspects de votre vie. Pas un aspect. C'est accepter de mourir à votre propre personne pour que Christ soit manifesté. S'il y a donc des personnes dans cette salle qui voudraient le faire, pendant qu'on va chanter ce cantique, vous allez méditer. Et si vous voulez le faire au terme de ce cantique, vous allez vous lever et nous allons prier avant de commencer. Sentez-vous libre de vous lever si vous voulez faire un pas décisif pour votre vie. Entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Merci. Nous chanterons le dernier cantique, la dernière strophe après la prière. S'il y a donc des personnes, elles se lèvent, nous allons prier pour elles, avec elles. Uniquement ces personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui veulent commencer une vie avec le Seigneur. Ne vous souciez pas de votre voisin. C'est votre histoire qui s'écrit. Vous n'avez pas besoin de savoir si plusieurs personnes se sont levées. Non, c'est votre engagement, c'est votre vie. Alors vous allez dire cette prière après moi, du fond de votre cœur. Dieu, en croyant que ce que vous dites, Dieu l'accomplit maintenant. Il a dit, il te sera fait selon ta foi. Seigneur Jésus-Christ. Non, uniquement les personnes qui sont debout, qui reprennent après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu m'aimes. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je regrette d'avoir vécu loin de toi. Dans le péché, je regrette de t'avoir ainsi trahi. Aujourd'hui, je renonce au péché. Je renonce à Satan. Je renonce à mes plaisirs. Je renonce au pouvoir de ma chair. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'ouvre la porte de ma vie. Viens, règne dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de m'accueillir comme ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander au frère Emmanuel de vous rester debout. Il va prier pour vous. Il va prier afin que Dieu vous affermisse dans votre engagement et que dès à présent, vous ayez le regard fixé sur le Seigneur, pas sur un homme.
Nous te bénissons pour chaque frère, pour chaque sœur. Nous prions, ô Père,
Amen. Merci. Merci, veuillez vous asseoir. À la fin, s'il est bon de rencontrer les gens de la cellule d'écoute, qu'ils vous donnent quelques orientations pour votre affermissement et qu'ils puissent vous aider. Amen. Alors, je voudrais dire à ceux qui se sont levés tout à l'heure, vous êtes des enfants de Dieu. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous êtes sauvés. Dès cet instant-là, vous êtes sauvés. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes maintenant un prince ou une princesse du royaume. Vous êtes un gagnant. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Quand vous faites un pas, Dieu fait le même pas avec vous. C'est ça votre nature, c'est ça votre identité. C'est là bien commencer. Ou c'est le commencer, commencer bien. Voilà comment on commence bien. Maintenant, étant donné que nous avons bien commencé, ou commencé bien, il est maintenant question de comprendre les éléments qui entourent ce commencement. Et ça doit être incrusté dans notre esprit. Dans notre esprit et dans notre manière d'être. Alors, il s'agit des vérités. Il y a des vérités qu'on ne peut effacer ou changer. Qu'il faut intégrer chaque jour comme chrétien. Le thème c'est jouir de votre liberté en Christ. Et cela n'est pas possible si ces vérités spirituelles ne sont pas le socle sur lequel repose notre marche avec le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie statique, c'est une vie dynamique. Une vie dynamique qui repose sur des fondements solides, des fondements irrévocable. Alors, nous allons en évoquer quelques-uns et expliquer. Le premier fondement, c'est le fondement qui ouvre tout et qui a déverrouillé même l'enfer. c'est la mort de Jésus. Jésus est mort. Et l'enfer a été détruit. La mort de Jésus a des conséquences inimaginables dans la vie de celui qui croit en lui. Jésus est mort pour toi. Il est mort et il a ouvert toutes les portes qui étaient fermées par le péché de ta vie. Par sa mort, il nous donne la vie. Ça, c'est la vérité qu'il faut garder à son esprit et croire et confesser tout le temps. Jésus est mort parce qu'il est mort, j'ai la vie. Parce qu'il est mort pour moi, Satan, tu te tais. Mais le constat, c'est que ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort, non? Mais nous vivons comme s'il n'était pas mort. Hein? Nous vivons comme des esclaves. Nous vivons comme des personnes qui ne savent pas que quelque chose s'est produit pour elles. Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour toi? Il ne s'agit pas de savoir l'oignon, c'est la connaissance seulement là. Il s'agit de croire qu'il a pris ta place. Il est mort pour toi. Pas pour rien. Il est mort pour toi. Si tu ne crois pas que Jésus est mort, l'œuvre de Jésus dans ta vie ne peut pas être manifestée. Vous savez pourquoi il y a les bagarres à l'église? C'est parce que les gens ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui a œuvré pour qu'il y ait l'église. Il y a quelqu'un qui est mort pour qu'il y ait l'église. Il y a quelqu'un qui est mort pour que toi tu sois ma soeur, pour que je sois ton frère. C'est sa mort qui commence à ouvrir et établir un lien entre toi et moi. Jésus est mort. Sa mort me libère de toutes les sentences qui pesaient contre moi. La Bible dit en Romains 8, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est mort. Déclarez tout ce que vous voulez déclarer au village. Que le sorcier va me manger, le vampire va faire ça. Vous perdez votre temps. Jésus est mort. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a pas un sorcier qui peut toucher à ma vie. Une femme vient me dire que personne n'a dit qu'elle veut mourir d'accident. Si on a dit, on a seulement dit que tu vas mourir, non? Comment tu crois déjà que tu vas mourir d'accident? Non, c'est que Jésus n'a rien fait. Parce que tu ne crois pas en Jésus, tu laisses la mort de Jésus et tu crois à ce que quelqu'un qui ne connaît pas écrit son nom dans une chambre a décrit. Parce que tu n'es pas conscient de ce que la mort de Jésus apporte. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 2 verset 9. Quelqu'un le lit très rapidement. Allons-y un peu rapidement s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2 verset 9. Oui. Que tu le veux ou pas, Jésus est mort pour toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Même si tu n'y crois pas, Jésus est mort pour toi. Pour tous. Si tu veux, exclue-toi dans tout cela. Mais Jésus, il est mort pour toi. J'expliquais aux enfants du culte d'enfants un jour l'œuvre de Jésus. Et je dis à chaque enfant, quand tu vis, considère que Dieu a fait son monde. Toi, tu es la seule. Tu es la seule personne que Dieu voit dans le monde. Et que comme tu étais la seule personne là, Jésus avait vu tout ce qui devait t'arriver et il allait prendre ta place. Parce qu'on dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a dit que non, même toi aussi, il aime tout le monde. Considère-toi comme une personne unique. Quand Jésus mourait à la croix, il a appelé le nom de tout le monde. Et il s'est placé, il a pris la place de chacun. C'est ce que ça veut dire. La seconde chose, la mort de Jésus. Maintenant, ça, ce sont les conséquences de la mort de Jésus. Il y a des personnes qui marchent comme des personnes qui n'ont jamais été pardonnées. Tous vos péchés sont pardonnés. Tous les péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus a effacé. Mais on constate que malgré le fait que Jésus a effacé tes péchés, toi tu conserves, tu fais comme si tu conservais encore d'autres. Ça n'existe plus. Quand on efface le péché, Dieu il ne te regarde plus en voyant ton péché. Mais ce qui se passe, c'est que toi tu te vois toujours comme pécheur. On va entendre des gens venir faire des confessions. Seigneur, toi tu sais que nous sommes des pauvres pécheurs. Quelle est cette histoire-là? Que nous sommes des pauvres pécheurs, nous ne pouvons pas vivre sans péché. Quelle est cette toi? Que Jésus dit qu'il a effacé tous tes péchés. Il t'a pardonné. Toi tu viens dire que Seigneur, vraiment, je ne suis qu'un pauvre pécheur. J'ai péché en pensée. Ça c'est la religion. J'ai péché en pensée, en acte, en omission. Ça c'est la religion. Donc tu es quelqu'un qui est libre, mais tu n'as pas conscience que tu es libre. Parce que tu es dans la religion. C'est un principe. Quand Dieu efface, ça n'existe plus. Pour Dieu, ça n'existe plus. Il y a quelqu'un ici que Dieu a pardonné de l'adultère. Mon ami, tu es pardonné. Même si ta femme veut être ça, Dieu t'a déjà pardonné. Il y a une femme que Dieu a pardonné d'un vol ou du mensonge. Dieu t'a pardonné. Ça n'existe plus. Et si tu vis chaque jour avec un sentiment de culpabilité, ça vient du diable. C'est l'œuvre du diable pour te voler la paix que la mort de Jésus t'apporte. Pour te voler la joie que la mort de Jésus t'apporte. Oui. Jésus a effacé tous les péchés. Alors, je fais une réserve ici. Il y a des gens, quand on dit que Jésus a effacé tous les péchés, elles vont s'engager à programmer un péché et dire que bon, Jésus, tu avais déjà effacé. Là, on ne joue pas avec Dieu. C'est que toi, tu es faux. Faux. Plus que faux même. Donc, il n'est pas question de dire bon, vraiment, Jésus. Il y a l'autre jour qu'on a dit que tu es effacé. Je n'avais pas encore commis ça. Pour que je commette que toi, ça, c'est que tu es faux. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alors, une autre conséquence de la mort de Jésus et du pardon, parce qu'il t'a pardonné, il a payé le prix de ton rachat. Tu étais esclave, livré comme esclave au péché, incapable de te mouvoir. Tu étais dans une prison, la prison du péché. Tout ce que tu faisais ne respirait que le péché. Jésus est venu demander la facture de ta dette. Il a dit, Satan, ça coûte combien? Et Satan a demandé des choses. Jésus a dit, non, il y a mon sang, il est plus puissant. Et il a payé ta dette. Est-ce que vous savez ce que signifie? Bon, qui doit de l'argent à quelqu'un ici? Non, j'ai levé quand même la main. Je sais que vous devez de l'argent. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, quand vous marchez en route, vous croisez la personne, vous dites, ouais, elle va encore demander son argent. Je veux faire comment? Tu vois l'esclavage là? L'autre esclavage, l'autre et l'esclavage ici, c'est petit par rapport à l'esclavage du péché. Imagine d'ailleurs que si toi tu dois à quelqu'un, tu le vois en route, tu commences à dire, ouais, je veux faire comment? Imagine alors quelqu'un qui est esclave du péché. Il est privé de liberté, privé de joie, de tout ce qui peut lui apporter même le sourire. Sa vie n'est qu'un enfer. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu entrer dans la prison dont on avait privé toute personne d'entrer. Pour te retirer. Mais il y a des gens qui aiment tellement la prison. Elles aiment tellement la prison qu'elles se sont tellement assises en prison qu'on coupe même les chaînes sur leurs bras. Elles restent comme les geôliers là-bas. Ils disent que non. Est-ce que nous sommes même libres? Je dis que mais. Pense alors, il dit non, je ne sors pas. Ici là, c'est bon. Il y en a comme ça dans l'église. Dieu ne veut pas que tu sois un homme qui n'est pas libre. Jésus t'a racheté. Il a payé le prix qui était suffisant. Lisons Galates chapitre 3, verset 13. Très rapidement, on va comprendre ce que Jésus a fait. Celui qui l'a trouvé le lit rapidement pour nous. Aïe. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction à ta place. Au village, tu es encore derrière les crânes. Tu dis que tu fais l'ondo. Les porcs, les poules, les chèvres, les moutons souffrent à cause de toi. Que tu vas enlever la malédiction. Christ nous a arrachetés de toute malédiction. Il est devenu malédiction pour toi. Qu'est-ce que tu cherches derrière les petits poussins? Les petits poussins. Au marché là, tu cherches quoi? Enlever la malédiction. Christ a déjà fait ça. Qu'est-ce que tu cherches sous le crâne de ton ancêtre? Enlever la malédiction. Il y a des gens même, on dit que bon, vraiment, aujourd'hui là, si tu meurs sans l'enfant, on va t'enterrer avec le caillou. Tu es maudit. Yeah! Tu n'es pas maudit si tu as Christ. Il n'y a pas de malédiction de mourir sans avoir un enfant. On dit qu'on va t'enterrer avec le caillou dans la main. Et ça fait quoi? Et si tu pars au ciel et ce qu'on a enterré sans le caillou part en enfer, où est le problème? Il faut sortir des schémas qui ne sont pas corrects. Voilà la conviction. Christ nous a racheté toute malédiction. Ce rachat-là a pour incidence une nouvelle nationalité. Tu es citoyen du royaume. Ta nouvelle identité, Jésus, par cette œuvre-là, t'établit une carte pour le royaume. Et si tu ne connais pas le problème, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur identité ou vivent dans une identité falsifiée. Il est Camerounais, mais il a la carte d'identité nigérienne. Voilà les gens comme ça. C'est ça. Quelle est ton identité? Ce que Jésus a fait là te donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est d'abord une identité spirituelle. C'est une identité spirituelle. C'est le spirituel qui gouverne le monde. Tout ce que tu vas entreprendre est planifié depuis le royaume. C'est ton identité. Le problème avec l'identité, c'est que les gens sont très versatiles. Quand ils se retrouvent avec des gens qui tiennent un certain langage, eux aussi tiennent le langage là. Donc c'est que tu n'as pas conscience de ton identité. Vous êtes dans un taxi, les gens racontent des conneries et vous aussi vous entrez là-dedans. Oui, un homme peut tromper sa femme, ça va, c'est la mode. Quelle est cette histoire? Non, c'est que tu n'as pas conscience de ton identité. Ton identité impose qu'on ne dise même pas certaines choses à côté de toi. On va très rapidement. Un autre élément, c'est que Jésus dit que je serai au ciel. Et que tous ceux qui sont de sa tribu, ou toutes les tribus vont se retrouver au ciel. Donc, par conséquent, même si je suis le seul baleine qui a cru, il y aura au moins un baleine au ciel. Parce que je suis de la postérité d'Abraham. Oui, il faut avoir conscience. Dans l'Apocalypse, il est dit que je vis toutes les tribus de la terre. Donc, il y avait les Baham là-dedans, si tu es Baham. Mais les vrais Baham nés de nouveau. Donc, Jésus nous donne l'opportunité par le rachat d'appartenir à la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est la famille des rachetés. L'église au ciel, ce ne sera pas l'église évangélique du Cameroun. L'église triomphante sur la terre, ce n'est pas l'église évangélique du Cameroun. Ce n'est pas l'église pentecôtiste. C'est l'église des rachetés. Ce sont les rachetés. Les gens qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à la famille de Dieu, qui ne se regardent pas en disant non, les gens s'y prient comme ça, les gens s'y prient comme ça, les gens s'y font comme ça, ils jeûnent beaucoup. Non. Si vous faites ça, vous êtes dans la religion. L'église des rachetés, c'est que si quelqu'un confesse Christ est mort et ressuscité, et qu'il révèle le caractère et la nature de Christ, c'est mon frère, c'est ma soeur. Qu'il soit pasteur de ce appelé pentecôtiste ou de l'église évangélique ou de l'église petite morte ou réveillée beaucoup, ça change. Donc, il faut intégrer cela. Ce que Satan réussit à faire jusqu'à présent, c'est que nous sommes des chrétiens enfermés dans notre petit cocon là. On n'a pas l'occasion de manifester la nature de Christ, d'aller au-delà. On dit, si je parle avec tel là, on va dire que je suis aussi comme eux. Si tu marches par l'esprit, alors l'esprit de Dieu n'est pas limité. Deux derniers éléments pour arrêter à ce niveau. Et ça, c'est des choses qu'il faut confesser tout le temps. Satan, c'est quelqu'un qui est un voleur. C'est quelqu'un qui revendique les choses dont il n'a pas droit. Et de temps en temps, il va revendiquer certaines choses. Il ne revendique les choses que lorsqu'on lui donne l'opportunité de les revendiquer. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous savez ce que Satan va dire? Est-ce que Christ t'a réellement libre? Mais tu vas dire, et je souffre encore comme ça. Et je manque souvent. Satan, c'est quelqu'un qui a déjà tout perdu. Il fait l'effort d'attraper ce qu'il a attrapé pour partir aussi avec. Est-ce que tu veux qu'il t'attrape? Donc, c'est qu'il faut croire à ce que je viens de dire. Et il faut déclarer. Déclarer à Satan cette chose. La première chose. Satan, tu a été vaincu. L'ennemi de nos âmes a été vaincu. Deuxième chose, Satan, comme tu as été vaincu là, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Troisième chose, Satan, tout ce que tu possèdes, toi tu es ténèbre, moi je suis lumière. Donc nous n'avons pas de point de contact. Quatrième chose, tu dois lui donner des ordres. Tu dois lui donner des ordres. Mais lui donner des ordres en sachant que tu avais le commandant en chef. Au nom de Jésus, tu lui donnes. Quatrième et dernière, cinquième chose, il faut être capable d'opérer dans la vie des gens que Satan a retenus. Ça veut dire que tu dis là où tu apprends qu'il y a quelqu'un qui souffre parce que Satan est venu se mêler à ces choses dans sa vie où la personne a donné le droit à Satan. Dit que bon, Satan, je suis venu te dire que Jésus ou la personne si est mort et il est ressuscité tout le temps. Oh, mais quand on parle de la délivrance, il y a des chrétiens qui disent que non, moi je veux même pas entrer là-bas. Il ne faut pas que les démons viennent me déranger. On dit que toi tu les as vaincus, tu es avec celui qui les a vaincus. Donc toi tu dois chasser les démons. Je ne dis pas qu'il faut voir les démons partout, non. Mais là où ils existent, où le Dieu te conduit, tu les chasses. Donc, en réalité, la guerre spirituelle que tu mènes, ce n'est pas contre un homme, c'est contre l'esprit de Satan. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Sixième chose qu'il faudrait déclarer, pour le mettre KO, c'est la parole. C'est. On ne parle pas avec Satan avec l'intelligence. On ne s'attaque pas à Satan avec l'intelligence. Ce qu'il redoute, c'est la parole. C'est la parole. Septième et dernière chose. Ouvrez vos Bibles dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Celui qui l'a trouvé nous donne la lecture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toutes les autorités, toutes les dominations, tu as le pouvoir de dépouiller ces autorités, ces dominations dans la vie. Amen. Demain, on va poursuivre avec la suite de cet enseignement sur bien commencer. Si tu peux déjà savoir cela, il y a aussi des choses pour lesquelles tu dois te séparer. Demain, on en parlera. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Merci au Seigneur. pour cette soirée ce que tu as entendu, ce que le Saint-Esprit t'a donné d'écouter. Dis au Seigneur, merci pour ces vérités qui t'ont été révélées et que tu veux voir manifester dans ta vie. Dis au Seigneur que tu veux manifester le caractère de Christ et que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est parfaite. C'est tout parfait et que tu n'as rien à y ajouter. Ce que Jésus a fait, il n'y a pas quelque chose qui lui manque. Dis à Dieu que cette œuvre est parfaite et que tu crois en son accomplissement dans ta vie. Merci Seigneur pour ta parole que tu as relâchée ce soir. Je te prie que les barrières tombent. Je te prie que les incertitudes fléchissent le genou dans la présence de Jésus. Je te prie, ô Dieu, parce que je crois que tu as tout accompli. Ta mort, ta résurrection, parle en ma faveur. Je suis un homme libre, libre à l'égard du péché, libre à l'égard des puissances des ténèbres. Merci Seigneur Jésus, parce que je fais partie de ta famille. Je fais partie de ta famille parce que tu m'as engendré. Je te prie que personne ne parte de ces lieux avec encore le doute sur ce que ta mort apporte, sur ce que tu as accompli, sur le pardon que tu accordes, sur la vie et la vie en abondance que tu donnes à chacun. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu fais toutes choses parfaites. Là où il y a encore des hésitations, là où il y a encore des incertitudes, là où il y a encore une résistance, que ton Saint-Esprit brise tout joug de notre captivité. Au nom de Jésus. Père, nous te prions que tu donnes à chacun de vivre pleinement
le
de la liberté que tu donnes,
que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer.
Toi seul,
toi seul.